ressuscité. À toi la victoire.
Jusqu'à vendredi soir, vous avez remarqué qu'on était dans l'incertitude de ce moment de culte. Oui, non, peut-être. En effet, tous les indicateurs Covid, ils le sont toujours, en rouge. Et on aurait pu, après 6 mois et 2 rencontres seulement, presque se reconfiner. Ce n'est pas encore dit, parce qu'on attend toujours le protocole qui va arriver à la semaine. Cette situation est désespérée et désespérante. Mais enfin, aujourd'hui, profitons du moment que nous avons. On ne sait pas ce que nous réserve l'avenir. Seul le Seigneur le sait. Nous sommes là et bienvenue dans ce lieu de culte et de prière. Et je vous invite justement à la prière. Père éternel, nous voulons te remercier parce que nous sommes là. Te remercier parce que tu étais jusqu'à la croix pour nous sauver, pour nous libérer et pour que nous soyons là aujourd'hui. Nous te remercions parce que tu es notre Dieu, tu mets ta main sur nous. Nous te demandons vraiment ta protection. Nous te demandons d'ouvrir les oreilles de notre cœur, Seigneur, pour que ton message puisse atteindre notre cœur, notre amour pour les autres, notre amour pour nous-mêmes aussi, parce que tu dis que d'aimer les autres comme soi-même. Seigneur, aide-nous à avoir les yeux fixés sur toi et que nous puissions surtout te rendre gloire. Dans le nom de Jésus. Amen. Je vous invite à lire le psaume 23. Psaume 23, très connu, évidemment. Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Il me semble que nous connaissons par cœur, mais parfois on connaît tellement bien les choses qu'on ne fait plus attention à certaines phrases, à l'importance des mots, qui, peut-être mis bout à bout, ne donnent qu'un beau psaume qu'on récite comme ça, par cœur. David sait de quoi il parle en écrivant le psaume 23. En effet, il a été berger, il l'a été lui-même. Il sait, il connaît les joies, les peines et les combats qu'il faut mener pour conduire un troupeau. Et notre Dieu nous connaît par notre nom. Et il veut nous protéger, nous donner le meilleur, même au cœur du tourment. En l'occurrence, dans cette période qui n'en finit pas, de pandémie. Toutes les phrases de ce psaume sont dites pour encourager même la plus boiteuse des brebis. Tout est beau, tout est bien, tout est parfait. Je ne manquerai de rien, les verts pâturages, les eaux paisibles, le bonheur, la grâce, la protection du berger, même dans la vallée de l'ombre de la mort. Tout va bien. C'est le paradis. Presque. Car il y a un détail qui a attiré mon attention et qui devrait attirer aussi la vôtre. Verset 5. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Qui sont ces adversaires? Je vais te voir juste la définition. Personne qui est opposé à une autre dans un combat, un conflit, une compétition. Un combat. Cette phrase au milieu d'un texte parfait, si je peux dire, il est là. Les adversaires sont là. Et aujourd'hui, notre adversaire, je pense que c'est celui qui en veut à notre vie matérielle, mais aussi à notre morale, à notre vie spirituelle. C'est peut-être cette situation qui nous mine, qui nous ronge, qui nous angoisse, ce virus qui nous entoure, qu'on ne sait pas, qu'on ne voit pas, qu'on ne connaît pas. Et David nous dit, tu dresses devant moi une table. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Oh, nous pourrions penser à la table de Sainte-Cène, qui nous manque certainement, mais aussi à un simple repas. Le bon berger, le divin berger, veut manger avec nous. Il veut manger avec moi, en face de mes adversaires. Il ne les a pas éliminés, les adversaires, non. Et je pensais à ce verset qui dit, Apocalypse 3:20, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je mangerai avec lui. » Peu importe ce qui se passe, il veut manger avec nous. On ne prend qu'un repas qu'avec les gens qu'on aime et que connaît. Sinon, reste là. Sûrement pas avec mes adversaires. Connaissant notre Dieu, c'est sûrement pas une simple tartine. C'est un banquet. Il nous prépare un banquet. Un banquet de fête, un repas de fête que nous pouvons partager avec lui. Quelle que soit la tempête, quelle que soit la pandémie, quel que soit le problème, peu importe, on ne s'occupe pas des adversaires, on mange ensemble. Aujourd'hui, puissions-nous vraiment nous réjouir qu'aujourd'hui on peut partager. Avant de laisser la parole à notre frère Victor qui va nous nourrir, et je vous invite à faire monter ce petit chant avant, fais monter vers ton roi tes louanges, fais monter ta prière devant lui.
Inclinons-nous quelques instants dans la prière. Nous approchons de toi, Seigneur, toi notre bon berger, ce berger fidèle et tendre qui jour après jour nous accompagne, prend soin de nous, nous aime et pourvoit tous nos besoins. Seigneur, avant d'ouvrir ta parole, nous voulons nous souvenir que si le Seigneur ne bâtit la maison, ceux qui travaillent, ceux qui bâtissent, bâtissent en vain. Et c'est pourquoi, notre Dieu, c'est à ton école que nous voulons à nouveau nous mettre ce matin. C'est toi que nous désirons entendre, non pas la voix d'un homme, car elle est bien faible, mais la tienne. Cette voix toute puissante, cette voix qui renouvelle, cette voix qui encourage, qui fortifie notre foi. Notre Dieu, manifeste-toi au milieu de nous ce matin et que ton nom soit béni, glorifié dans nos pensées, dans nos vies, mais surtout, Seigneur, dans nos actes de tous les jours. Amen. C'est dans la prophétie de Jérémie que je vous invite à ouvrir vos Bibles maintenant, où nous lirons un texte qui, pendant tous ces mois de pandémie, m'a interpellé, et que nous trouvons au chapitre 35, où nous lirons tous les versets de ce chapitre. Jérémie chapitre 35, versets 1 à 19. Au temps de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. « Va, va à la maison des Récabites et parle-leur. Tu les conduiras à la maison de l'Éternel ton Dieu, dans une des chambres, et tu leur offriras du vin à boire. Je prie Jaazania, fils de Jérémie, fils de Hasbania, ses frères, tous ses fils et toute la maison des Récabites, et je les conduisis à la maison de l'Éternel, dans la chambre des fils d'Anan, fils de Jigdalia, homme de Dieu, près de la chambre des chefs, au-dessus de la chambre de Maeséja, fils de Shalom, garde du seuil. Je mis devant les fils de la maison des Récabites des coupes pleines de vin et des calices, et je leur dis « buvez du vin ». Mais ils répondirent, « Nous ne buvons pas de vin, car Jonadab, fils de Récab, notre père, nous a donné cet ordre, vous ne boirez jamais de vin, ni vous ni vos fils, et vous ne bâtirez point de maison, Vous ne sèmerez aucune semence, vous ne planterez point de vigne, et vous n'en posséderez point, mais vous habiterez sous des tentes toute votre vie, afin que vous viviez longtemps dans le pays où vous êtes étrangers. Nous obéissons à tout ce que nous a prescrit Jonadab, fils de Récap, notre père. Nous ne buvons pas de vin pendant toute notre vie, nous, nos femmes, nos fils et nos filles. Nous ne bâtissons point de maison pour nos demeures, et nous ne possédons ni vignes, ni champs, ni terres ensemencées. Nous habitons sous des tentes, et nous suivons et pratiquons tout ce que nous a prescrit Jonadab, notre père. Lorsque Nebuchadnezzar, roi de Babylone, est monté contre ce pays, nous avons dit « Allons, retirons-nous à Jérusalem, loin de l'armée des Chaldéens et de l'armée de Syrie. C'est ainsi que nous habitons à Jérusalem. » Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. « Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Va, va et dis aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem, ne recevez-vous pas instruction pour obéir à mes paroles, dit l'Éternel. On a observé les paroles de Jonadab, fils de Récab, qui a ordonné à ses fils de ne pas boire du vin. Ils n'en ont point bu jusqu'à ce jour, parce qu'ils ont obéi à l'ordre de leur Dieu. Et moi, je vous ai parlé dès le matin, et vous ne m'avez pas écouté. Je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes, je les ai envoyés dès le matin pour vous dire « Revenez chacun de votre mauvaise voie. Amendez vos actions, n'allez pas après d'autres dieux pour les servir, et vous resterez dans le pays que j'ai donné à vous et à vos pères. Mais vous, vous n'avez pas prêté l'oreille, vous ne m'avez pas écouté. Oui, les fils de Jonadab, fils de Récab, observent l'ordre que leur a donné leur père, et ce peuple ne m'écoute pas. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées, le Dieu d'Israël. Voici, je vais faire venir sur Juda et sur tous les habitants de Jérusalem tous les malheurs que j'ai annoncés sur eux, parce que je leur ai parlé et qu'ils n'ont pas écouté, parce que je les ai appelés et qu'ils n'ont pas répondu. Et Jérémie dit à la maison des Récabites, « Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. » Parce que vous avez obéi aux ordres de Jonadab, votre père, parce que vous avez observé tous ses commandements et fait tout ce qu'il vous a prescrit, à cause de cela. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, Jonadab, fils de Récab, ne manquera jamais de descendants qui se tiennent en ma présence. La première partie de ce chapitre nous renvoie au tout début du VIe siècle avant notre ère. Exactement 28 années, disent les historiens et les commentateurs de la Bible, avant que ne soit détruit le temple de Salomon et que ne disparaisse à tout jamais, sous le coup de butoir de l'armée de Nebuchadnezzar, le royaume de Juda et alors Jérusalem avec lui. C'est donc un drame terriblement ou douloureux, qu'allaient vivre, qu'allaient connaître très prochainement les habitants du royaume, une épreuve d'autant plus cruelle et périlleuse qu'ils n'avaient à leur tête alors aucun homme digne de ce nom qui aurait pu les conduire au travers de cette épreuve et au travers de la bataille. En effet, en ce temps-là, les prophètes, lisons-nous, parlaient de leur propre chef, que je n'ai pas envoyé, dira Dieu, et à qui je n'ai pas donné d'ordre. Quant aux deux derniers rois de Juda, Joachim et Sédécias, son fils, malheureusement, c'étaient des personnes idolâtres, violentes, corrompues, et qui n'ont eu de cesse de mépriser les divers avertissements de Dieu et ont participé sans retenue à la déliquescence morale, spirituelle et politique de la nation. Ce qui aura pour conséquence de reléguer l'équité, la justice aux abonnés absents, que le sang innocent soit répandu et qu'il souille tout le pays et que souffre impunément également l'étranger, la veuve et l'orphelin. Parlant de cette époque, Le prophète Ézéchiel, un contemporain de Jérémie, dira vivre en Israël équivalait alors à camper dans un buisson d'épines envahi par des scorpions. Telle était donc la situation qui nous est présentée de ce peuple, une situation d'un peuple qui, humainement parlant, méritait d'être rejeté, méritait d'être abandonné à lui-même. Et pourtant, malgré ses errances et ses révoltes constantes, jamais Dieu n'a cessé de l'aimer, Dieu n'a jamais cessé de l'interpeller. Et c'est tellement vrai que, pour ainsi dire, dans chacun des 52 chapitres de ce livre de Jérémie, il apparaît sans cesse ce leitmotiv qui revient et qui revient constamment. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées, le Dieu d'Israël. Ou bien encore, la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie, le prophète. Ce qui fera dire à ce dernier, au chapitre 25 et au verset 3, et je vous le lis dans la version de Darby, « Depuis la 13e année de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, jusqu'à ce jour, ces 23 années, la parole de l'Éternel me fut venue et je vous ai parlé. » La parole de l'Éternel me fut venue et je vous ai parlé. Et à la lumière des différents détails consignés dans les chapitres 43 et 44, nous pouvons ajouter qu'il en fut également ainsi les 20 années suivantes. Ainsi donc, durant 43 années, Dieu n'a cessé de s'adresser par la bouche de son prophète Jérémie à son peuple. D'où cette affirmation répétée, cette affirmation qui revient constamment, « Ainsi m'a parlé l'Éternel, ainsi m'a parlé l'Éternel. » Une déclaration qui, je me dois d'avouer, m'interpelle chaque fois et me reprend chaque fois et à chacune de ces lectures. Car invariablement, elle me demande « Et toi, où en es-tu ?» Ou plus exactement, à quand remonte ce moment où Dieu t'a également parlé, ou non pas à l'occasion d'un culte, à l'occasion d'une étude biblique, mais dans le secret de ta chambre, dans ce moment d'intimité personnelle, intime, avec ton Dieu. Et tel Jérémie, dès lors, tu peux déclarer « Ainsi m'a parlé l'Éternel ». Mais en parallèle à cette déclaration, une question me revenait toujours. Quelle a été ta réponse? Oui, qu'as-tu répondu alors à ton Dieu? Dieu t'a parlé. Il s'est révélé à toi, mais quelle a été ta réponse? En tout cas, lorsque on regarde dans la vie du prophète Jérémie, ce dernier, nous l'a toujours inscrite dans l'obéissance, dans une obéissance sans faille. Alors qu'il avait toutes les raisons et les meilleures, croyez-moi, pour contourner l'appel de son Dieu et de lui dire « Seigneur, je ne comprends pas. Seigneur, je ne comprends pas, je suis dubitatif face à ton ordre. Aussi, explique-moi pourquoi. Pourquoi, alors que le royaume de Juda est au bord du gouffre, qu'il y a péril dans la demeure, toi, tu me détournes de ma vocation première, qui est celle d'être ton messager auprès de ton peuple, pour m'envoyer vers des Rékabites, ces nomades qui n'ont rien en commun avec notre peuple, avec Israël, ces Madianites, ces descendants de Jéthro, le beau-père de Moïse, qui, il est vrai, pour la plupart d'entre eux, se sont joints à notre peuple au départ du Sinaï et ont activement participé à la conquête du pays de Canaan. Tu le sais, ils se sont pourtant jusqu'à ce jour démarqués de nous par leurs us et coutumes. et se considèrent toujours, et nous l'avons lu, comme étant des étrangers. Aussi perplexe et ne comprenant ni l'utilité ni la pertinence de la mission et qui lui avait été confiée, tel Jonas autrefois, Jérémie aurait pu désobéir, emprunter un tout autre chemin, d'autant qu'il lui était demandé alors l'impensable. Oui, l'impensable. Conduire des étrangers, conduire ces récabites dans la maison de Dieu, dans l'une des chambres contiguës de la maison de l'Éternel, dans ce lieu sacro-saint où se côtoyait l'élite, nous l'avons lu tout à l'heure, spirituelle et politique de la nation, tels les fils d'Anan, descendants du prophète Jigdaïa, les princes de Juda, mais également Maaséja, le Lévite, qui avait la charge, la garde du seuil du temple. Tout cela pour dire, pour souligner, qu'en introduisant ces nomades dans le sanctuaire le plus prestigieux, le plus vénéré et sacré d'Israël, Jérémie, ce jour-là, a été amené à accomplir ce qui jamais ne s'est encore vu et fait auparavant. Et comble de tout, Dieu lui demande alors de leur offrir dans des coupes et des calices du vin. Ce qui tout naturellement laisse à penser qu'étant bu en si bonne compagnie et dans de tels contenants, ce vin ne devait pas être du tout une piquette, mais un breuvage suave et onctueux, un concentré d'une complexité aromatique des plus remarquables. Je mis devant les récabites des coupes pleines de vin et des calices, et je leur dis, buvez du vin. Buvez du vin. Ne vous en privez pas, il y en a pour tout le monde. Mais grande fut, je l'imagine, sa surprise de s'entendre dire ce jour-là, non, merci. Non, merci, nous n'en voulons pas. Et d'apprendre par la même occasion qu'il déclinait son offre, non pas parce que ce vin, le vin qui réjouit le cœur de l'homme, comme nous dit la Bible, et fait plus que l'huile resplendir son visage, pouvait le conduire à ne plus distinguer ce qui est saint et ce qui est profane, ce qui est impur et ce qui est pur, mais parce qu'ils avaient à cœur d'honorer, d'obéir aux prescriptions de Jonadab adressées il y a près de 3 siècles déjà à leur père. Une prescription qui les invitait, tout comme leur fils, à ne jamais boire du vin. Et que si, à ce jour, ils n'ont pas bâti de maison pour leur demeure, et qu'ils ne possèdent ni vignes, ni champs, ni terres ensemencées, et habitent sous des tentes, c'est à nouveau et encore par souci d'obéissance qui les motivait. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en ce qui me concerne, une telle obéissance et une telle abnégation me confondent, me reprennent. Et j'ai envie de dire chapeau bas. Oui, chapeau bas. D'autant plus que ces récabites l'ont vécu pour plaire, non pas à Dieu, en tout cas de première vue, à première vue, mais à un homme. Un homme de la même nature que nous, limité, imparfait, peu fiable, sujet à l'erreur, et j'en passe, alors qu'il leur était tellement aisé de contourner les ordonnances de Jonadab, d'étouffer leur conscience en se disant, mais en fin de compte, et à bien y réfléchir, pourquoi donc, et jusqu'à quand devrions-nous vivre en marge de la société, constamment souffrir la différence et nous priver de tant de bonnes et légitimes choses à cause d'une prescription qui nous vient d'un tout âge. Ne serait-il pas plus judicieux de nous inscrire enfin dans notre temps? Et puis, où est-il le mal? Et qu'y a-t-il de répréhensible à construire sa maison, de posséder des champs, d'élever des vignes, et boire comme tout un chacun à sa santé, mais également à celle d'un autre? Jonadab ne se retournera pas dans sa tombe si nous acceptons, pour une fois et maintenant, l'offre gracieuse de l'un des plus grands prophètes d'Israël, et qui plus est, dans le temple, dans l'enceinte du temple. Oui, tel aurait pu être l'argumentaire des Rechabites pour légitimer leur volte-face. Mais c'eût été alors, et ils le savaient, vendre la proie pour l'ombre, brader, mépriser la promesse qui était liée à leur obéissance, c'est-à-dire vivre longtemps. C'est ce qu'ils diront à la fin de leur entretien avec Jérémie, afin de vivre longtemps dans le pays où ils sont étrangers. Mais vous savez, essayez de comprendre au mieux pourquoi les Rechabites ont décliné l'offre de Jérémie, nous conduit à prendre en compte un détail d'importance rapporté presque tout au long de l'histoire d'Israël, c'est-à-dire ce travers idolâtre auquel se livrait le peuple d'Israël en consommant du vin préalablement offert aux divinités païennes, telles les Baals, nous le savons, et les Astartés. Et c'est certainement afin de préserver ses descendants de ce péché et de ce piège que Jonadab leur a adressé cet ordre « Vous ne boirez jamais de vin, ni vous, ni vos fils. » Nous ne savons pas si le prophète Daniel, qui était alors en captivité à Babylone, connaissait l'ordonnance de Jonadab, mais ce qui est certain, ce qui apparaît clairement dans le texte, c'est qu'étant désireux, lui aussi, de plaire à son Dieu, il résolut, est-il écrit, de ne pas se souiller avec les mets du roi et avec le vin qu'il buvait. Il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Obéir, respecter leur engagement et honorer in fine le Dieu créateur en refusant de se souiller. Voilà la raison fondamentale de l'abstinence des Rechabites quant à leur privation des biens des plus légitimes. Il est l'illustration de leur foi en Dieu, de leur dépendance de lui pour tous les besoins de tous les jours. Un exemple, un témoignage remarquable qui certainement n'a laissé personne indifférent ce jour-là dans l'enceinte du temple. Mais puisque pas un seul détail ne transpire et n'apparaît dans ce récit, au sujet d'une éventuelle réaction, d'une prise de position ou de propos qu'aurait pu tenir Jérémie, je vous propose de nous engager dans la conclusion de ce message et de nous arrêter maintenant sur ce qui me semble être la pensée centrale de la deuxième partie de ce chapitre, à savoir l'intervention renouvelée de Dieu dans l'histoire de son peuple, qui, dans sa compassion et sa patience, va l'avertir à nouveau une dernière fois de l'imminence de sa chute définitive. Voici, leur dira-t-il, je vais faire venir sur vous et sur le royaume de Juda et sur tous les habitants de Jérusalem tous les malheurs que je vous ai annoncés. Et la raison en est, je vous ai parlé dès le matin, et vous ne m'avez pas écouté. Je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes, je vous les ai envoyés dès le matin pour vous dire, revenez chacun de votre mauvaise voie, amendez vos actions, n'allez pas après d'autres dieux pour les servir, et vous resterez dans le pays que je vous ai donné, ainsi qu'à vos pères. Mais vous n'avez pas prêté l'oreille, vous ne m'avez pas écouté alors que les fils de Jonadab, fils de Rechab, observent l'ordre que leur a donné leur père, versets 14 à 16. Combien, j'imagine, cela a dû être douloureux et amer pour Dieu de constater qu'au terme d'une relation de près de un millénaire avec Israël, une relation qu'il a inscrite, forgée dans son amour, son pardon, sa fidélité, sa délivrance, ce dernier en était toujours à le refuser. Son oreille. de l'écouter, de lui obéir, préférant se tourner, comme nous l'avons lu, vers des divinités païennes et les servir. Mais vous savez, ce qui interpelle, reprend et surtout me confond à la lecture du constat de Dieu, c'est qu'étant rejeté par un peuple qui ne voulait rien entendre, par des hommes et des femmes qui se sont endurcis, Dieu, le Dieu de l'infinie compassion, va dans une ultime tentative leur demander « Ne recevrez-vous donc pas mes instructions pour obéir à mes paroles ?»« Ne recevrez-vous pas donc mes instructions pour obéir à mes paroles ?» En d'autres termes, « Mais quand donc la recevrez-vous enfin ?» Oui, quand enfin lui ferez-vous bon accueil? Et en réfléchissant, si peu soit-il, à cette dernière démarche de Dieu, avant que le royaume de Juda ne tombe dans l'oubli, comment ne pas penser à l'histoire de ce Père que Jésus nous raconte et qui inlassablement, jour après jour, a scruté l'horizon dans l'espoir de voir le retour du Fils prodigue? Oui, c'est au même tableau et à la même scène qu'il nous est donné d'assister ici. Mais contrairement au fils prodigue, dans une volonté délibérée et affichée de nos retours vers leur Père céleste, les habitants du royaume de Juda ont refusé jusqu'au bout de se repentir, ont refusé d'obéir et de servir le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ne recevrez-vous pas mes instructions? Nous arrivons, chers amis, au terme de ce culte. Aussi, permettez-moi la question suivante. L'appel solennel adressé aux habitants de Juda et de Jérusalem par le Dieu très haut et trois fois saint, cet appel empreint de la douleur et de sa tristesse, ne nous concerne-t-il pas, par hasard? Nous, les chrétiens du XXIe siècle, nous qui nous installons, écoutons depuis pas mal de temps déjà, peut-être depuis des années, les enseignements à l'heure des cultes, des conférences ou des études bibliques, non pas afin d'y obéir, mais par habitude, et parce qu'un tel ou tel autre orateur nous fait du bien, nous encourage spirituellement, nous enrichit notre connaissance de Dieu et des Saintes Écritures, ou alors tout simplement, parfois, afin de soulager notre conscience, cette empêcheuse de tourner en rond, qui nous accuse et nous rappelle que nous n'avons plus touché notre Bible depuis 3-4 jours, ou davantage encore. Oui, c'est là ce qui, bien souvent, nous caractérise, malgré nous, et nous devons le reconnaître. Alors que la question de Dieu ici est la suivante: quand donc enfin serons-nous? Serais-je disposé à recevoir ces instructions? Non pas pour les raisons qui viennent d'être énumérées ou d'autres encore, mais afin d'obéir, de lui obéir, de lui plaire. Souvenons-nous que cette question est adressée au peuple de Dieu, non pas à des inconvertis, non pas à des gens qui méconnaissaient les Écritures, mais au peuple de Dieu. Ne recevrez-vous pas mes instructions pour obéir à mes paroles, afin de les faire vôtres et m'honorer ainsi au travers de la sanctification qui est le fruit d'une mise en pratique précisément de mes prescriptions. Les Récabites ont dit au prophète Jérémie: nous obéissons à tout ce que nous a prescrit Jonadab, notre père. Nous suivons et pratiquons tout ce qu'il nous a prescrit. Et si nous le faisons, vois-tu, ce n'est pas pour satisfaire, aurait-il pu ajouter en substance, pour satisfaire une tradition que perpétue depuis 3 siècles déjà notre peuple, mais parce que l'enjeu pour nous est de taille. Il en va de la vie, il en va de notre vie, afin que vous viviez longtemps. Nous suivons et pratiquons. Nous obéissons à tout ce qu'il nous a prescrit. Tel fut, aux heures les plus sombres de l'histoire d'Israël, le témoignage des Rechabites. Un témoignage que Dieu, nous le voyons dans les deux derniers versets, va honorer. Et il le fera au travers d'une merveilleuse promesse. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Parce que vous avez obéi aux ordres de Jonadab, votre père, parce que vous avez observé tous ses commandements et fait tout ce qu'il vous a prescrit, à cause de cela, ainsi parle le Dieu d'Israël, Jonadab, fils de Rechab, ne manquera jamais, jamais de descendants qui se tiennent dans ma présence. Oui, merveilleuse, mais également précieuse a été cette promesse pour les Rechabites, surtout dans ces temps combien troubles, mêlés d'angoisse et d'incertitude. Car ce qu'elle leur assurait alors, c'était la perpétuité de leur race. Il ne manquera jamais de descendants qui se tiennent en ma présence. Monsieur Pache, qui a été dans les années 60 et 70, le directeur de l'Institut biblique d'Emmaüs, professeur également et auteur de plusieurs ouvrages, note dans son dictionnaire biblique que des descendants de cette tribu, les descendants des Rechabites se rencontrent encore de nos jours en Mésopotamie et au Yémen, alors que d'autres diront, parlent de leur présence en Palestine. Dieu est et il reste fidèle. Jamais sa parole ne retourne à lui sans effet, sans avoir exécuté sa volonté. Et c'est là une vérité fondamentale qui devrait, me semble-t-il, au vu de ce qui a été rapporté ce matin, nous interpeller d'autant plus que nous sommes entrés de plein pied de ce que la Bible présente comme étant la fin des temps. Ce temps est-il attesté où bientôt notre Seigneur et notre Sauveur Jésus-Christ reviendra en gloire pour nous chercher. Aussi, que vais-je lui dire? Qu'allons-nous lui dire lorsque nous comparaîtrons devant lui? Est-ce, Seigneur, tu le sais, tout comme les Rechabites, j'ai suivi, j'ai pratiqué tout ce que tu m'as prescrit et que tu m'as donné de comprendre à ce jour. Par amour pour toi, je me suis préservé de l'idolâtrie ambiante. J'ai résolu, tel les Rechabites, de ne pas me souiller. Ou bien, me faudra-t-il reconnaître devant les myriades de témoins et d'anges qu'à l'instar de ces Israélites qui possédaient la loi et les prophètes, et qui chaque sabbat fréquentaient assidûment le temple de Jérusalem et les synagogues, moi aussi bien des fois, je n'ai pas amendé mes actions, j'ai refusé de prêter une oreille attentive à mon Dieu, je n'ai pas été vraiment à son écoute, aux aguets, pour saisir sa pensée, mais uniquement ce qui me convenait et qui me satisfaisait alors. Chers amis, ma prière, comme la nôtre, devrait être ce matin, mon Seigneur et mon Dieu, toi, mon beau berger, dont il a été question d'entrer dans ce culte, préserve-moi à tout jamais. Préserve-moi à tout jamais dans ton amour, et je t'en supplie, d'une telle alternative. Je terminerai par ce verset solennel qui est co-signé dans la première épître aux Corinthiens et au chapitre 10. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Amen.
L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Merci encore, Victor, d'avoir apporté ce message. Quelques annonces. Je vous rappelle toujours notre mardi de prière de 19 à 19h30. C'est évident que si vous ne savez pas pile poil à 19h, Dieu est en haut du temps, on est quand même ensemble. Mais le but, c'est de se retrouver plus ou moins dans le même temps.
Que la grâce de Dieu, la paix de Jésus-Christ et le soutien du Saint-Esprit soit avec vous tous. Amen.